Sur RFI, il est 8h22 ici à Paris. C'est l'heure de la revue de presse de Marine de la Moissonnière. Bonjour Marine.
Bonjour.
Et à la une de vos hebdomadaires français cette semaine, une femme, Jeanne Moreau. L'actrice est morte lundi dernier.
Jeanne Moreau, une cigarette à la bouche ou à la main. Jeanne Moreau et Brigitte Bardot. Ou bien encore l'actrice et Miles Davis. Partout, les mêmes photos en couleur, mais surtout en noir et blanc. Car Jeanne Moreau était un mythe. Le mot revient sous toutes les plumes. D'elle, on retiendra son sourire, sa voix, bien sûr, son talent, ses films et ses chansons. Car comme le rappelle Lopes, Jeanne Moreau était comédienne, réalisatrice, chanteuse, femme amoureuse et libérée. Plus précisément, si le journaliste Jérôme Garcin écrit dans l'Obs qu'elle a représenté durant plus d'un demi-siècle les multiples facettes de la culture française. Le Théâtre National Populaire de Jean Villard, le premier festival d'Avignon, la Nouvelle Vague, le petit écran, le grand avec Louis Malle, Buñuel, Antonioni, Godard, Truffaut, Orson Welles. Exercer son métier sans jamais appartenir à aucune caste, c'était sa ligne de conduite, explique encore Jérôme Garcin.
L'Obs a demandé à plusieurs personnes qui l'ont connue, quels souvenirs elle garde d'elle.
Oui, et de tous ces témoignages, il ressort que Jeanne Moreau était une femme simple et généreuse, tout le contraire d'une star. C'était une personnalité merveilleuse, séduisante, mais jamais arrogante, raconte ainsi Volker Schandlorff, qu'il a côtoyé sur le tournage du film Viva Maria. Ce côté chaleureux, cette capacité à se moquer d'elle, se retrouve à l'écran, analyse encore le réalisateur.
Une femme simple et pourtant intimidante.
Oui, c'est Jean-Louis Trintignant qui emploie cet adjectif dans l'Obs. Beaucoup d'autres professionnels du cinéma qui témoignent avouent qu'ils étaient eux aussi impressionnés par Jeanne Moreau, impressionnés par sa force, par son immense talent aussi. Comme le rapporte Le Point, Jacques Demy disait de Jeanne Moreau, on peut tout faire avec elle, elle ne vit que pour cela, c'est une comédienne jusqu'au bout des ongles.
Et à lire dans le journal du dimanche aujourd'hui, une interview du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui détaille le plan du gouvernement en matière d'immigration.
Un plan pour trier les migrants, titre du JDD, en conciliant efficacité et générosité, précise Gérard Collomb. Mais c'est bien une politique plus ferme que dévoile le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du quotidien. Gérard Collomb explique « La France accueille tous ceux qui fuient la guerre et les persécutions, mais fait une distinction avec ceux qui quittent leur pays pour d'autres raisons, notamment pour des raisons économiques, ceux-là doivent rentrer chez eux et plus vite.
C'est important, dit Gérard Collomb, parce que les enquêtes d'opinion montrent une réticence de plus en plus grande des Français sur la question de l'accueil des migrants.
Oui, du coup, si l'on ne fait pas la distinction entre le droit d'asile et les autres motifs de migration, ce sera le droit d'asile qui sera remis en cause, met en garde le ministre. Mais encore faut-il faire cette distinction avec humanité, souligne le journal du dimanche. Attention au tri qui s'effectuera avant même l'arrivée des migrants en France, insiste encore le JDD, qui rappelle que pour l'heure, les centres d'accueil voulus par Emmanuel Macron ne pourront pas être installés en Libye. Ils le seront donc au Niger.
Et Gérard Collomb a également évoqué la situation des Français partis combattre en Syrie ou en Irak aux côtés des djihadistes du groupe État islamique.
Oui, ils sont un peu moins de 300 à être rentrés depuis un an et demi. 217 adultes, 54 mineurs, précise Gérard Collomb. C'est peu, mais c'est normal, explique le spécialiste du djihadisme Romain Caillet au journal du dimanche. Beaucoup de Français ont été tués. Et puis, pour ceux qui souhaitent quitter les zones de combat, c'est très compliqué. Il faut de l'argent et un réseau pour faire faux bond à l'EI et traverser la frontière syro-turque, désormais plus imperméable.
Tout autre sujet, le PSG encore et toujours lui. C'est une histoire surprenante que nous raconte l'équipe MAG qui revient cet été sur les petits et les grands délinquants du sport.
À l'automne 2014, pendant plusieurs semaines régulièrement, les vestiaires du club au Camp des Loges où les Parisiens s'entraînent sont cambriolés. 21 maillots, des coupe-vents, des chasubles d'entraînement, des protèges tibia, des gants de gardien, 6 paires de chaussures de joueurs et même les crampons de David Luiz, Lucas Digne et Marquinhos et aussi une montre Hublot d'une valeur de 12 500 euros offerte par le président du club à chacun des joueurs pour les féliciter du titre de champion du monde, en l'occurrence celle de Javier Pastore.
Est-ce que les policiers ont pu arrêter les voleurs, Marine ?
Oui, et assez facilement en fait, car ils revendaient leur butin sur le site Le Bon Coin, comme le raconte l'équipe MAG. Les enquêteurs se sont donc fait passer pour des acheteurs et ont coincé les coupables, un agent de sécurité et l'un de ses amis. Les deux hommes ont écopé de 6 et 8 mois de prison avec sursis, mais, et c'est là que l'affaire est surprenante, ils ne devront pas indemniser le PSG. Le tribunal a considéré que le club n'avait pas subi de préjudice matériel, car l'équipement ne lui appartient pas, il appartient aux joueurs. Depuis, les disparitions de matériel continuent, révèle l'équipe MAG. D'après un audit interne effectué en octobre dernier, 2000 pièces se sont volatilisées, essentiellement chez les pros. Des prêts, des dons, des oublis, explique le journal, une surconsommation à laquelle il a été mis le holà depuis.